Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Au sommaire, un nouvel appel insistant du pape François en faveur de la Syrie, qui est la proie depuis trop longtemps d'un conflit sanglant qui continue de semer la mort et la destruction. Le pape François qui a par ailleurs commencé un nouveau cycle de catéchèses sur les dons du Saint-Esprit. Autre titre à la une de l'actualité vaticane, une conférence visant à construire un réseau efficace contre les trafics d'êtres humains. Il s'agit de favoriser une collaboration entre la police et l'Église qui dispose de réseaux d'assistance. Une collaboration existe déjà depuis 3 ans à Londres, entre l'Église et Scotland Yard. Vous entendrez également dans cette émission le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il se félicite de la défaite du parti au pouvoir qui souhaitait instaurer une charte de la laïcité. Le pape François n'oublie pas la Syrie. À l'audience générale ce mercredi matin, devant quelques 45 000 personnes, il a lancé un nouvel appel aux responsables syriens et à la communauté internationale. On l'écoute.
Per favore, tacciano le armi.
Je vous en prie, que les armes se taisent et qu'il soit mis fin à la violence. Plus de guerre, plus de destruction. Que le droit humanitaire soit respecté, qu'on prenne soin de la population qui a besoin d'une assistance et qu'on arrive à la paix désirée par le dialogue et la réconciliation.
Le Saint-Père a évoqué l'assassinat lundi dernier dans la vieille ville de Homs d'un de ses confrères, le jésuite hollandais Frans van der Lucht, âgé de 75 ans. Arrivé en Syrie il y a près de 50 ans, il avait toujours fait le bien, gratuitement et avec amour. C'est pourquoi tous l'aimaient et le respectaient, chrétiens et musulmans. Le pape François a par ailleurs confié que sa brutale mise à mort l'avait rempli d'une profonde douleur et lui avait fait penser aux nombreuses personnes qui continuent de souffrir et de mourir dans ce pays martyr. Le souverain pontife pense aussi aux nombreuses personnes prises en otage, chrétiens et musulmans, syriens et étrangers, dont des évêques et des prêtres. Il demande aux fidèles de prier pour leur libération, de prier pour la paix en Syrie et dans toute la région. Auparavant, le pape François avait commencé un cycle de catéchèses sur les dons du Saint-Esprit. Il y avait sur la place Saint-Pierre de nombreux jeunes Français, Belges et Luxembourgeois. Le Saint-Père a invité les jeunes à devenir des sages selon le cœur de Dieu, à ne pas être des chrétiens insipides, mais à faire en sorte, au contraire, que leur vie ait de plus en plus la saveur de l'Évangile, le parfum du Christ, afin de communiquer aux autres sa douceur et son amour. Le Saint-Esprit, a-t-il dit, est l'âme de l'Église et de tout chrétien. Il est le don de Dieu par excellence, qui à son tour nous communique divers biens spirituels, les 7 dons du Saint-Esprit. Parmi eux, la sagesse permet de voir toutes choses avec le regard de Dieu. Il s'agit d'une lumière intérieure qui nous fait reconnaître l'empreinte de Dieu dans notre vie et dans l'histoire. Cette audience générale aura par ailleurs été marquée par une initiative hautement symbolique, la présence sur la place Saint-Pierre d'une grande croix réalisée avec le bois des embarcations arrivées à Lampedusa depuis les côtes libyennes. Antonino Gallofaro.
La croix, qui fait près de 3 mètres de haut et qui pèse 60 kilos, a été bénie par le pape François avant d'être portée en pèlerinage à travers toute l'Italie en signe de solidarité et de paix entre communautés, paroisses, culture, ville et religion. Le voyage de la croix de Lampedusa est organisé par la fondation Maison de l'Esprit et des Arts qui œuvre depuis des années à Milan en utilisant la culture, la musique et les arts pour venir en aide aux couches les plus faibles de la population, en particulier les enfants et les jeunes vivant dans des conditions de détresse sociale. Au terme de son voyage, la croix de Lampedusa sera installée dans l'église Saint-Étienne de Milan. Les promoteurs souhaitent qu'elle devienne un lieu de prière et de pèlerinage pour tous ceux qui ont été touchés par la tragédie de Lampedusa. L'année dernière, le diocèse de Milan avait déjà fait réaliser 150 croix avec le bois des embarcations en mémoire des victimes du naufrage du 3 octobre 2013. Selon le ministre italien de l'Intérieur, quelques 4000 migrants ont été secourus en 48 heures par l'Italie et plus de 15 000 depuis le début de l'année. Les débarquements ne s'arrêtent pas et l'urgence est de plus en plus criante.
Et avant l'audience générale, le pape François avait reçu à la résidence Sainte-Marthe un célèbre chirurgien argentin d'origine italienne, le docteur Juan Carlos Parodi. C'est lui qui a mis au point la technique de l'implantation endovasculaire de prothèses pour traiter les anévrismes. Dans les jardins du Vatican, l'Académie pontificale des sciences accueille une conférence de 2 jours sur les trafics d'êtres humains, rassemblant des représentants de l'Église, mais aussi du FBI, d'Interpol et d'Europol, ainsi que les commissaires de police d'une 20aine de pays, en présence de victimes et de religieuses s'occupant de victimes. L'objectif, lutter ensemble contre la traite des êtres humains, contre le recours aux enfants pour en faire des soldats ou des esclaves domestiques, contre la traite des femmes, leur exploitation sexuelle ou encore l'exploitation des migrants. Je vous propose de découvrir à cette occasion le travail d'une femme qui risque sa vie pour aller chercher en Égypte des Érythréens passés de main en main, achetés ou volés, avant de finir en otage dans le Sinaï. Alors comment ont-ils fui? Comment les a-t-elle retrouvés? Le témoignage d'Alganesh Fessaha, érythréenne, médecin et présidente de l'ONG Gandhi, fondée en 2003.
Quand je rencontre les personnes qui sont dans les prisons, je dis « Comment vous êtes fouillé ?» Elle dit « C'est facile parce qu'on paye 200-300 euros. » Après, il y a quelqu'un qui est de la police, de la gendarmerie, qui nous accompagne jusqu'aux confins. Il arrive aux confins du Soudan. Ils vont dans la police. La police fait les formalités. Après de ça, c'est un policier qui est un peu équilibré. Elle va l'accompagner à les camps
de
réfugiés. C'est pas comme ça. Il appelle les bédouins du Soudan, ils vendent. Et aussi, lui, fait du commerce. Et même s'ils sont dans les camps de réfugiés, il y a les bédouins qui viennent apprendre. C'est comme des voleurs. Tout le monde il a peur. Et les Soudanais, après, ils vendent ces personnes-là à un Égyptien bédouin. Ils vont être vendus 5 fois jusqu'à arriver à côté des confins israéliens.
Vous dites qu'il y a de la torture tout au long du parcours.
Pendant tout le parcours, ils sont torturés. Ils arrivent, il n'y a pas beaucoup d'eau à boire, ils donnent une petite eau, il n'y a pas à manger. Et après, quand ils voient les jeunes, ils sont violés. Quand ils se rebellent, ils sont torturés. Les Soudanais, ils frappent beaucoup. Il violait beaucoup les femmes.
Comment ça se passe en Égypte? Vous dites qu'il y a 5 familles essentiellement, donc on les connaît, les bédouins qui volent
Oui, oui, ils sont bien connus. Maintenant, ils ne sont pas nombreux. Mais avant, ils étaient nombreux. Parce qu'une petite famille, ils prennent 50 personnes. Après, ils disent, OK, je ne peux pas tenir ça. Ils les vendent à quelqu'un d'autre. Ils l'achètent à 2 000, ils les vendent à 4 000.
Une forme d'esclavage quand même.
Oui, 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 mais l'esclavage, nous sommes à 2014 et nous avons l'esclavage. J'avais vu le film 12 ans d'esclavage, non? Et quand j'avais vu la torture, j'avais pensé à la torture qui fait le bédouin. Ils sont les mêmes. Ils sont dans les chaînes. Celle dit, j'avais pas l'argent pour payer. Ils sont frappés. Et même il y a un service de vigilance. Ils sont changés 3 fois. Le matin, l'après-midi, le soir. Et ces personnes, ce groupe sont de 3, 4, 5 personnes. Et ces 4, 5 personnes, chaque jour, ils violent les femmes. Vous pouvez imaginer une femme qui est violée par 10, 15 personnes, par jour. Hein?
Comment est-ce qu'on fait pour avoir des contacts avec ces gens qui sont emprisonnés et qui sont frappés
Je crois qu'ils connaissent mon numéro. Au début, quand il arrive, il m'appelle parce que les bédouins, ils les donnent les cellulaires. Il m'appelle pour me dire est-ce que tu peux payer pour nous? Je dis non, je ne paye pas jamais parce que c'est contre la règle de ma vie, je n'accepte pas. Mais je vous pouvais aider dans une manière différente. Vous restez là et vous me dites où vous êtes. S'il y a quelque chose, s'il y a une maison de Kekoloa, s'il y a des animaux, s'il y a des arbres, toutes les choses.
Les surveillants, les gardiens ne sont pas là pour écouter ce qu'ils sont en train
oui,
de dire.
Ils sont là, ils sont là. Beaucoup de fois, ils pensent qu'ils parlent avec sa sœur ou son maman pour demander l'argent. Non? Parce que quand ils parlent, ils disent ah, ah, oh, nous avons besoin de l'argent, est-ce que tu peux envoyer? Oui, la maison, c'est ça. C'est comme ça qu'ils passent. Quand ils vont me donner les indications, je travaille avec un bédouin qui s'appelle Cheikh Mohamed. Donc, j'appelle Cheikh Mohamed, je l'explique où peut être la maison. Alors, il va chercher. Après, il parle avec le bédouin. Et le bédouin, toujours, il dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas rien, tu peux regarder toute la maison. Alors, il cherche, mais il ne peut pas aller à la cave. Il m'appelle, il dit, il n'y a pas. Et je dis non, ils sont là. il faut bien chercher. Nous avons une place où nous mettons les personnes pour les sauver.
Vous avez parlé de Cheikh Mohamed qui vous aide dans ce parcours-là. Il est lui-même bédouin et salafiste. C'est important pour vous, on imagine?
Oui, c'est très important. Nous sommes ensemble 4 ans et demi. Et Cheikh Mohamed, il donne sa vie pour ces choses-là, mais aussi il est respecté parce que c'est une famille très grande. C'est grâce à lui aussi que la chose s'est réduite. Il fait une chose très intéressante. Chaque vendredi, après la prière, il va avec de gros mégaphones à côté de la mosquée. Il dit à tous les bédouins, il dit, vous faites des péchés, vous allez contre Dieu. Parce que dans le Coran, il est écrit que c'est on tue une seule personne, c'est comment tuer le monde entier. Et tout le monde elle est choqué parce que pas tous les bédouins ils connaissent la situation. Et chaque fois, il dit, ok, vous cherchez à les personnes qui habitent à côté de vous, s'il y a quelques mouvements, il faut aller pour parler et pour sauver. Ils l'ont fait comme ça. Hein.
Du coup, il y a une prise de conscience même au sein des populations bédouines.
Oui.
Le docteur Elganesh Fessaha, présidente de l'ONG Gandhi, interrogée par Marie Duhamel. Les participants à la conférence internationale sur le trafic d'êtres humains seront reçus par le pape François ce jeudi. À noter la présence du cardinal nigérian John Onaiyekan. La traite des êtres humains est, selon l'UNESCO, au 3e rang des crimes commis au Nigeria après la corruption et le trafic de drogue. Une déclaration globale sera adoptée par tous les chefs de police présents. Autre événement de la semaine, une rencontre internationale sur les JMJ se déroule près de Rome, sous les auspices du Conseil pontifical pour les laïcs. Après Rio en 2013, c'est Cracovie, la ville de Jean-Paul II, qui accueillera les prochaines journées en juillet 2016. Le thème choisi est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le pape François propose aux jeunes un parcours à la recherche du courage de la joie, conformément aux béatitudes évangéliques. Pour faire le point des préparatifs et approfondir la réflexion, 250 délégués de 90 conférences épiscopales et de 45 communautés, associations et mouvements catholiques ont convergé vers Rome. Dimanche matin, ils assisteront à la messe des rameaux présidée par le souverain pontife sur la place Saint-Pierre. Le dimanche des rameaux coïncide avec la célébration diocésaine de la journée de la jeunesse. À Paris, tous les samedis soirs de carême, à la basilique Montmartre, a lieu le carême en sous-sol. Une initiative où des groupes de personnes se réunissent pour prier ensemble, puis ils vont à la rencontre des pauvres et des drogués dans les métros parisiens. Nicolas Chituli nous raconte son expérience.
On part de la basilique et on se divise en petits groupes de 3 ou 4. On a chacun avec nous des sacs à dos, avec à l'intérieur des boissons chaudes, de la nourriture, des produits d'hygiène. On va dans le métro, donc à la rencontre des sans-abri, des drogués. On va les rencontrer, on leur propose des boissons, de la nourriture, on parle avec eux. Et on finit tous en se retrouvant à Gare du Nord avec les nombreux sans-abri qui sont à Gare du Nord tous les soirs. Il y a un côté aussi évangélique puisque on a des médailles miraculeuses qu'on distribue à ceux qui le souhaitent également, et ça permet d'engager la discussion sur la religion, sur Dieu, sur Jésus.
Quelle expérience avec les sans-abri vous a le plus marqué?
Je pensais que j'allais évangéliser, que j'allais faire du bien aux gens que j'allais rencontrer, mais en fait je me rends compte que c'est surtout moi-même que j'évangélise et que c'est à moi-même que ça fait du bien. C'est-à-dire que là, ça convertit soi-même d'aller à la rencontre des pauvres, des gens qu'habituellement on ne salue même pas, qu'on croise dans le métro mais qu'on a peur d'aller voir. Ça grandit et ça convertit d'aller à leur rencontre et de leur dire bonjour.
Comment les sans-abri vous voient-ils?
Ils sont souvent interpellés, ils nous demandent si on est chrétien, ils nous parlent de Dieu, du coup ils ont des questions sur Jésus, sur la Vierge Marie. Et en tout cas, on est toujours très très bien accueillis. C'est-à-dire que même quand on va voir des gens qui sont en train de fumer du crack, bah, ils arrêtent de fumer et puis ils sont contents que des gens viennent les voir. Le café donné ou la madeleine donnée, bah, c'est souvent un prétexte pour engager une discussion et c'est ça qu'ils recherchent, casser leur monotonie, leur solitude avec des gens qui viennent discuter avec eux, qui prennent le temps de discuter 5 ou 10 minutes avec eux.
Et pourquoi les sans-abri?
C'est parti d'une réflexion, comment vivre un temps de carême en cumulant à la fois l'aumône, la prière et le jeûne. Bah, toutes les conditions étaient réunies en allant voir les sans-abri, c'est-à-dire que on prie pour eux. Déjà, avant de partir en mission, devant le Saint-Sacrement, on prie pour eux après, une fois qu'on les a rencontrés, qu'on a mis des noms sur des visages. L'aumône, parce que bah, chacun apporte ce qu'il peut apporter, et on n'est pas financé, on est vraiment autofinancé, c'est-à-dire que c'est sur nos deniers personnels que nous apportons de la nourriture, donc c'est une forme d'aumône, une forme de sacrifice aussi. Le jeûne, puisque bah, le samedi soir, généralement, c'est un temps où on est plus occupé à aller faire la fête qu'aller à la rencontre des pauvres. Il y a aussi cette volonté d'aller voir des gens que toute l'année, bah, finalement, on va pas vraiment voir, quoi, qu'on voit sans voir. Ils sont là, on les voit tous les jours quand on prend le métro pour aller au travail, mais on va jamais à leur rencontre. Le temps du carême, c'est un temps propice pour briser ces barrières, et l'objectif, c'est que ça se limite pas juste au temps du carême, c'est qu'après, quand on croise un sans-abri ou un marginal dans le métro, bah, qu'on puisse au moins lui dire bonjour. C'est à ça que sert ce temps de carême et l'opération Carême en sous-sol.
Est-ce que vous pensez que ça répond à l'appel du pape François d'évangéliser aux périphéries ?
Effectivement, oui, je pense que c'est pleinement dans le message du pape. Alors, c'est pas que ça, la périphérie, c'est pas que les pauvres, hein. C'est nos voisins, c'est nous-mêmes aussi, bien souvent. Aller à la rencontre des plus démunis, des gens qui sont pas dans l'église, mais qui sont à 100 mètres de l'église, ou qui même parfois sont sur les marges de l'église, je pense que c'est ça, la périphérie. C'est effectivement notre devoir de chrétien d'aller voir ces gens-là.
Comment expliquez-vous le carême à vos proches ?
Moi, je leur dis que c'est un temps propice au rapprochement avec Dieu, donc en se délestant de tout ce qui nous éloigne de lui tout au long de l'année. Pour certains, ça peut être la nourriture, jeûner, parce que c'est souvent ça qui revient, c'est est-ce que vous mangez pendant le carême. Certains mangent moins, mangent peu, mangent pas du tout, mais d'autres, ça passe par d'autres privations. Donc pour moi, c'est ça le carême, c'est comme ça que je l'explique, et c'est un temps d'ouverture sur Dieu et sur les autres. Et en tout cas, c'est un moment de joie, c'est pas du tout un moment de tristesse, même si c'est un temps de pénitence, et c'est un temps qui prépare à la joie de Pâques.
Nicolas Chitulli, interrogé par Esther Vazeux. Le projet de loi sur la laïcité et la neutralité religieuse de l'État québécois, qui inquiétait vivement les catholiques et divisait la population, a été rejeté par les électeurs. Le Parti québécois, qui en avait fait son cheval de bataille, a subi une très nette défaite aux élections législatives anticipées qui se sont tenues lundi. Des élections remportées par le Parti libéral, chassé du gouvernement en 2012 suite à un long conflit étudiant. Pauline Marois et sa formation sortante payent ainsi leur tentative de réforme, notamment sur la laïcité, de repli identitaire et l'idée d'un référendum sur l'indépendance de la belle province. À l'issue du scrutin, les évêques québécois ont salué une démocratie à l'œuvre. Ils l'ont fait par la voix de Mgr Pierre-André Fournier, évêque de Rimouski et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec.
On a insisté beaucoup sur l'importance de la légitimité de la démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie légitime, il faut qu'il y ait une participation citoyenne assez forte lors des élections. Alors, on a nommé plusieurs enjeux. Il y avait des enjeux sur la liberté religieuse, il y en avait sur le droit à l'éducation, il y en avait sur les soins palliatifs, etc., l'environnement, il y avait la souveraineté aussi. Mais la démocratie ne se limite pas au moment de l'élection. Nous avons été vigilants avant, en ce qui concerne différents sujets comme la charte, l'euthanasie, la justice sociale, toutes les grandes valeurs évangéliques. On continue à être vraiment attentifs. La démocratie se continue aussi par les partis d'opposition, les groupes intermédiaires, la population, même parfois il y a des manifestations. Alors, c'est vraiment le positif de voir la démocratie qui joue son rôle dans notre société. Le message qui était donné à la fois par la première ministre perdante, Mme Marois, et à la fois par le nouveau premier ministre, M. Couillard, étaient des messages vraiment apaisants, de désir de respecter la démocratie. Alors, je pense qu'il est important, c'est de vraiment cheminer ensemble.
Mgr Fournier, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, interrogé par Antonino Gallofaro. Un deuil au sein du Sacré Collège. Le cardinal irakien Emmanuel III d'Élie, patriarche émérite de Babylone des Chaldéens, est mort ce mercredi matin dans un hôpital de San Diego, en Californie. Il était âgé de 87 ans. Il sera enterré aux États-Unis, où réside sa famille. Il avait participé en tant qu'expert au Concile Vatican II. Il avait été par ailleurs consultant de la commission de révision du Code de droit canon oriental. C'est en 2003 qu'il avait été élu à la tête de l'église chaldéenne à Bagdad, dans une période dramatique pour l'Irak, quelques mois après le début de l'offensive américaine. Son ministère aura été marqué par de nombreuses vicissitudes. Il avait cessé ses fonctions en 2012. Suite à la mort du cardinal d'Élie, le Sacré Collège compte désormais 216 membres de 67 pays, dont 120 électeurs. L'Irak perd son seul cardinal. Et puis sachez que Mgr Antoine Hérouard, actuellement secrétaire général de la Conférence des évêques de France, sera le nouveau recteur du séminaire français de Rome à compter du 1er septembre prochain, pour un mandat de 5 ans. Il succédera au père Sylvain Bataille, dont le mandat s'achève à cette date. Mgr Hérouard a été nommé par la Congrégation pour le clergé sur proposition du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.